Les séminaires du Collège de France.
Donc, je vous présente Raphaël Marschall. Donc, Raphaël Marschall est un astronome suisse-allemand qui a fait sa thèse à l'université de Berne, à l'époque dans un laboratoire très impliqué dans la mission Rosetta, donc la mission de l'Agence spatiale européenne qui a étudié la comète Tschuri, et il a travaillé sur les images de la comète, la modélisation des trajectoires de la poussière dans la coma de la comète, etc. Ensuite, il a quitté l'université de Berne pour un long postdoc aux États-Unis, au Colorado, au Boulder, au Southwest Research Institute, qui est un institut de recherche très important. Il a été l'institut PI, donc, qui a réalisé la sonde New Horizon, qui est partie explorer Pluton et Arrokoth, dont je vous ai parlé la dernière fois. Et maintenant, est l'institut PI de cette nouvelle mission qu'ils appellent Lucy, qui est une mission aussi de la NASA, qui va visiter un certain nombre de Troyens. Et donc, les Troyens, on ne les a jamais vus de près, donc c'est une mission très intéressante. Alors, actuellement, Raphaël est postdoc avec moi, mais à Nice, pas à Paris. Donc, on modélise plutôt l'évolution primitive du disque, des gaz et des poussières. Mais vu son continue à rester impliqué dans la mission Lucy, c'est d'ailleurs lui qui a calculé la possibilité de rencontrer des astéroïdes en route vers les Troyens. Il a déterminé les cibles, donc en fait c'est lui qui a permis cette rencontre avec un astéroïde dont il va vous parler, qui a découvert une lune binaire, donc une première absolue mondiale. Donc je pensais que c'était très intéressant d'aller un peu plus dans les détails, à la fois sur la structure physique des Troyens et à la fois sur cette mission très fascinante dont il va vous parler. Donc voilà, Raphaël, c'est à toi.
Merci beaucoup pour l'introduction et bonsoir à tous et toutes. C'est un grand honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Et merci aussi pour rester ici pour cette deuxième heure de conférence. Aujourd'hui, j'aimerais vous en dire un peu plus d'une population particulière de petits corps dans notre système solaire. Ce sont les Troyens de Jupiter. Comme le professeur Mobilier a déjà dit, je suis également membre de l'équipe scientifique de la mission de Lucy, et donc je suis heureux de vous en dire un peu plus de cette mission aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans les détails, je voudrais vous rappeler un peu la structure de notre système solaire. Nous avons les quatre planètes géantes et gazeuses avec Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et puis, en système solaire interne, nous avons les quatre planètes telluriques avec Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et en plus de ces huit planètes, maintenant, nous connaissons un peu plus de 1 million de petits corps. Et ces petits corps se trouvent dans différents réservoirs. Certaines sont stables, des autres sont transitoires. On commence avec un réservoir entre Mars et Jupiter. Là, ça situe la ceinture principale d'astéroïdes. Ensuite, il y a les Troyens de Jupiter, dont nous parlerons plus aujourd'hui. Puis, entre Jupiter et Neptune, nous avons les Centaures. C'est une population transitoire. Et au-delà de Neptune, on trouve la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens qui ont été déjà introduits, je pense, la semaine passée. Et je veux aussi dire que les Centaures, ils sont, comme j'ai dit, une population transitoire qui vient du disque dispersé de la région transneptunienne, et certains de ceux finissent par évoluer en comètes. À ce jour, nous avons visité plusieurs de ces petits corps. Ils variaient énormément en taille, allant de plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Les, les comètes ici sont généralement quelques kilomètres en diamètre. Nous avons aussi un objet de la ceinture de Kuiper appelé Arakov ici. C'était visité par la sonde New Horizons et c'est un membre du population classique froide. Mais tous ces objets ici, tous ces petits corps ici, sont considérés des reliques du formation des planètes. Et comme ça, nous pensons qu'il a des informations critiques pour comprendre comment notre système solaire a évolué. Une autre chose que vous remarquez ici est qu'il n'y a pas de Troyens dans cette galerie. Ce sont les seuls corps que nous n'avons pas encore visités avec une sonde spatiale. Mais donc la seule population que nous avons aucune image haute résolution. Mais cela changera au cours de les 10 prochaines années. Aujourd'hui, je vais d'abord vous expliquer ce que nous savons jusqu'à présent du Troyen du Jupiter. Ensuite, je décrirai un peu la mission de Lucie et ses cibles troyennes. Lucie a vraiment une trajectoire extraordinaire qui nous permet de visiter 8 Troyens et 2 astéroïdes en une seule mission. Et enfin, je vous montrerai quelques premiers résultats et particulièrement ceux du récent survol de l'astéroïde Dinkenesh. D'accord, commençons par ce que nous savons actuellement sur les Troyens de Jupiter. Tout d'abord, parlons des orbites. Dans cette animation ici, vous pouvez voir Jupiter et les Troyens dans un référentiel inertiel à gauche. Et à droite, je vous montre la même chose, mais dans un référentiel en co-rotation avec Jupiter. Donc, nous compensons ici le mouvement de rotation de Jupiter. Et comme ça, c'est un peu plus facile qu'est-ce qui se passe. Vous voyez que les Troyens orbitent autour du Soleil en même temps que Jupiter. Et cela s'explique parce qu'ils sont en résonance 1-1 avec Jupiter, un concept que le professeur Morbidelli a déjà introduit aujourd'hui. Et les Troyens se trouvent dans 2 groupes autour des points de Lagrange, L4 et L5. Et dans le référentiel de co-rotation de Jupiter, c'est aussi plus facile d'observer comme les Troyens oscillant autour de les points de Lagrange. Et cette période de libration, c'est en ordre de 150 ans. En regardant un peu plus près des éléments orbitaux, et ici je vous montre l'amplitude de libration, et c'est, vous pouvez considérer comme la variation du demi-grand axe par rapport à l'orbite de Jupiter. Et ici, vous voyez aussi les inclinations propres des Troyens. En remarquant d'abord un certain groupement des éléments orbitaux, ici par exemple, dans L4, mais pas en L5. Et ça, ce sont des familles collisionnelles. Le plus grand, c'est la famille de l'Uribad ici, mais vous voyez aussi les autres petites familles ici, par exemple. Et c'est remarquable qu'il n'y a aucune famille de collision dans L5, et probablement c'est parce que cette collision catastrophique qui fait ces familles collisionnelles sont généralement très rares. Et aussi, la population de L5 est un peu plus moins. La population L4 est un peu plus grande que la population L4. Et donc, les probabilités de faire ces collisions catastrophiques sont peu plus bas en L5 qu'en L4. La deuxième chose à noter sont les grandes inclinations allant jusqu'à 30 degrés ici. Et si on vu ces inclinations si élevées, c'est très surprenant. Et pourquoi? Parce que si les Troyens s'étaient formés là où ils sont aujourd'hui et avaient capturé par Jupiter in situ, leur inclination devrait représenter celle du planétésimo qui forme dans un disque protoplanétaire. Et dans ce cas, le disque de gaz réduit toutes les inclinations. Et donc, les valeurs typiques pour les inclinations dans ce cas sont entre 2 ou 3 degrés. Mais ce n'est pas ce que nous observons. Il en va de même si on considère aussi la migration des planètes dans la disque protoplanétaire à cause de l'interaction avec la disque gazeuse. Vous pouvez voir cette migration dans ce modèle de Pirani. Et dans leur modèle, les Troyens sont capturés lorsque Jupiter migre de 18 unités astronomiques juste à son position actuelle à 5 unités astronomiques. Mais même dans ce cas-là, vous voyez que les inclinations de ces modèles en bleu ici sont faibles et ne sont pas du tout comme la distribution des inclinations qu'on observe ici en gris. Donc, est-ce qu'il y a des autres mécanismes pour expliquer ces inclinations? Une possibilité, c'est qu'il pourrait y avoir eu des grands embryons planétaires en taille de Pluton environ, qui sont implantés parmi des Troyens. Dans ce cas, ces embryons auraient excité les inclinations des Troyens jusqu'au niveau que nous observons aujourd'hui. Mais c'est un peu bizarre, mais parce qu'aujourd'hui, nous ne observons que ces embryons. Et donc, ils auraient être perdre, et c'est dynamiquement pas facile à faire. C'est donc pas un scénario très probable. Une autre option vient d'une comparaison des inclinations avec des centaures. Ici, je vous montre la distribution des inclinations des Troyens en violet et les inclinations du Centaure en orange. Et c'est clair que ces distributions sont vraiment similaires. Et j'ai déjà dit que les Centaures sont de la provenance de la ceinture de Kuiper. Et donc, on peut peut-être dire qu'il y a un lien génétique entre les Troyens et la ceinture de Kuiper. Et il y a un mécanisme pour faire cet lien génétique, mais c'est un sujet pour un autre jour. C'est le sujet de la semaine prochaine et dans le cours 8. Et donc maintenant, je ne spoilais pas le résultat. Regardons maintenant les spectres des surfaces du Troyen. Ici, vous pouvez voir deux spectres représentatifs du Troyen, dont le visible et le infrarouge proche. La plupart du temps, ces spectres du Troyen sont assez uniformes et sont sans bandes caractéristiques. Cependant, les ponts différents selon l'inclination. Nous avons une différence de pente Et ça permet de définir deux populations, une avec une pente rouge et une autre avec une pente moins rouge, qui est indiquée en bleu ici, mais c'est encore une pente rouge. Ces deux populations représentent aussi les types spectraux qui sont définis de Buss et de Méo. Et en fait, on trouve principalement des objets dits de type P et D dans les Troyens. Et aussi, l'autre chose à dire ici, c'est plus facile à mesurer les pentes que les spectres complets, et donc c'est plus facile à examiner un peu plus les pentes spectroscopiques. Si nous faisons ça, ici vous voyez un histogramme de la pente spectrale, et nous voyons que les Troyens suivent une distribution bimodale. Et on définit ces deux populations, une qui s'appelle la population rouge et l'autre la population moins rouge. Mais nous ne comprenons pas encore complètement l'origine de cette distribution bimodale. Une possibilité se présente lorsqu'on examine les couleurs d'autres populations. Donc ici, nous ajoutons les petits corps de la ceinture de Kuiper et des Centaures. Et si on fait ça, on voit qu'il y a en fait trois populations. Nous avons les moins rouges et les rouges, mais aussi le, on dit plus rouge ou très rouge. Je sais que les noms ne sont pas très créatifs, mais c'est comme ça. Et dans une étude de Wong et Brown, il a spéculé qu'il y a une trende héliocentrique. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir une tendance dans les couleurs et la distance héliocentrique. On commencera avec les couleurs de ceinture de Kuiper, rapprochant du soleil, les couleurs se deviennent plus bleues, et en déplaçant ici en gauche sur ces graphiques. Ce qu'ils ont proposé, c'est que les couleurs initiales découlent d'une différence de distance de formation. Il y a les objets au delà de la ligne de sublimation de sulfure l'hydrogène, et il vient d'être très rouge et les autres deviennent rouges. Et si ces objets-là se retrouvent plus proches du Soleil, comme les Troyens, l'irradiation plus intensive le rend plus bleu, donc au moins rouge. Pour des objets qui sont dans la ceinture de Kuiper, rien ne change pour les couleurs. Il y a aussi des processus avec des collisions qui peuvent modifier ces couleurs. Par exemple, les familles collisionnelles comme celle de l'Uribade que j'ai déjà mentionné sont moins rouges que les autres Troyens. Il existe une autre population que nous pouvons examiner, ce sont les Troyens de Neptune. Le problème ici, c'est que jusqu'à 2019, seulement quelques Troyens de Neptune étaient connus et aucune entre deux n'était très rouge. Et donc leur distribution en bleu ici ressemblait beaucoup à celle des Troyens de Jupiter en orange ici. Donc, dans ce cas-là, il ne serait pas logique que la distance la distribution des couleurs dépend de la distance héliocentrique, parce que les Troyens de Neptune se trouvent essentiellement à la même position que la ceinture de Kuiper. Mais depuis 2019, nous avons découvrir encore plus des Troyens de Neptune. Nous avons, je pense, plus que 31 Troyens de Neptune maintenant. Et leur distribution de couleurs a changé de manière significative. Aujourd'hui, cette distribution, c'est celui en vert ici, est statistiquement identique de celle du disque dispersé. C'est la ligne en noir. Et cela pourrait donc signifier que tous les petits corps du système externe sont liés d'une manière. Pour résumer ce point, on peut dire que les couleurs sont principalement une fonction de la distance héliocentrique et de l'irradiation à cette position. Le disque disperse à la distribution bimodale d'origine avec des objets de rouge et très rouge. Et cette distribution est héritée par les Troyens de Neptune. Puis la distribution des centaures est légèrement décalée vers le bleu parce qu'il se rapproche du soleil. Enfin, les couleurs des Troyens de Jupiter sont les plus décalées vers le bleu car ils ont passé des milliards d'années beaucoup plus proches de la soleil. Ensuite, nous pouvons regarder à quel point ces objets sont lumineux ou sombres. Et cela, c'est quelque chose mesuré par l'albédo, qui représente en fait la fraction de lumière réflectée par l'objet. Un objet blanc qui reflète toute la lumière a une valeur de 1 ou 100%. Et un objet noir qui ne reflète aucune a une valeur de 0. Nous voyons ici que les Troyens sont généralement très sombres et ne réfléchissent qu'environ 7%. Pour comparaison, de nouveau asphalte a une albédo de 4%. Notre Lune a une albédo de 14%. Et la Terre est à 43%. Donc les Troyens sont vraiment très sombres et nous n'avons pas beaucoup de mesures pour des objets transneptuniennes, mais pour ceux qui nous avons, ils sont généralement cohérents avec la distribution des Troyens du Jupiter. Et ce n'est pas du tout le cas pour les astéroïdes. C'est vrai, il y a une population sombre, mais une grande part, une surpopulation significante existe qui est bien plus lumineuse avec des albédos entre 15 et 50%. Ensuite, nous pouvons examiner la distribution des tailles des Troyens. En total, nous connaissons maintenant plus de 14 000 Troyens et leur magnitude absolue. Il y a la distribution en magnitude absolue. Et pour les 2000 plus grandes d'entre eux, nous connaissons également le diamètre. Alors ici, c'est la distribution en diamètre. Et en général, les Troyens sont, parce qu'ils sont assez sombres et réfléchissent seulement environ 7% de lumière, cela signifiait qu'une magnitude absolue de 13,5 est environ 10 km. Pour la distribution des tailles, les deux groupes L4 et L5 à peu près de la même forme. Il y a une pompe raide pour les objets de plus large que 100 km. Et pour les objets plus petits, il y a une pente environ moins 2 ici. Je veux aussi dire que cette pente plat ici, ce n'est pas réel. C'est seulement parce que nous n'avons pas déjà découvert tous ces objets de ces tailles-là. L'autre chose, c'est que Il y a une légère asymétrie entre les deux groupes. Il y a environ 30-50% de Troyens en plus dans L4 qu'en L5. Mais à ce moment-là, nous ne comprenons pas encore où vient cette asymétrie. Nous pouvons également comparer la distribution des tailles des Troyens à celle du disque dispersé. Actuellement, cette comparaison ne peut être faite qu'à l'aide des modèles. Et ces modèles utilisent des observations directes, mais aussi indirectes avec des observations des cratères. Lorsque cela est fait, nous voyons que les deux distributions ici sont presque identiques. Et je dois également mentionner que cette distribution n'est pas une distribution générale. Par exemple, si nous voyons la distribution de la taille des astéroïdes et celle de la disque disperse, ils sont très différents. Et donc, le fait que les distributions des tailles des Troyens et du disque disperse sont essentiellement identiques suggère de plus un lien génétique entre la ceinture de Kuiper et les Troyens de Jupiter. Comme j'ai mentionné au début, les Troyens sont la seule grande population que nous n'avons pas encore observée de près. Et je voudrais donc passer quelques minutes à vous présenter une mission de la NASA appelée Lucy qui visitera plusieurs de ces Troyens. La mission Lucy est un tour dédié aux Troyens de Jupiter. Elle a été lancée il y a 3 ans, en octobre de 2021, depuis Cap Canaveral aux États-Unis. Et la mission comporte 2 survols d'essai, un l'année dernière et l'autre l'année prochaine. Et entre 2027 et 2033, il y aura 5 rencontres avec des Troyens et plusieurs de ces rencontres sont avec des systèmes binaires et comme ça, nous observons un total de 8 Troyens. Et pour donner un peu plus de contexte, en regardant l'histoire de l'exploration des astéroïdes, nous pouvons voir que ces dernières décennies, il y a 7 missions qui ont visité 9 objets dans la ceinture principale des astéroïdes. Et ces missions ont vraiment révolutionné notre compréhension de cette population. Et ce qui est vraiment extraordinaire de Lucy est que nous allons visiter presque autant des Troyens, mais dans une seule mission. Donc, nous pouvons attendre une révolution similaire dans notre compréhension des Troyens au cours de la prochaine décennie. La motivation scientifique de la mission est assez simple. Comme nous n'avons jamais observé un Troyen de près, maintenant nous ignorons ce que nous ne savons pas. Et donc, c'est une population très importante qui pourrait être liée avec la ceinture de Kuiper, mais qui est beaucoup plus facile d'accès. Comme j'ai montré précédemment, les Troyens forment une population très diversifiée et donc il est impératif d'échantillonner cette diversité. Et cette diversité a produit des processus de formation et de l'évolution du système solaire externe. Et donc, comprendre cette diversité nous rapprochera à la compréhension de l'évolution et formation de notre système solaire externe. Pour moi, la trajectoire qui rend tout ces possible est vraiment incroyable, je pense. C'est, je l'ai ajouté ici dans cette animation utilisée plus tôt dans ma présentation. En particulièrement, j'aimerais bien comme la trajectoire apparaît dans cette référentielle co-rotation de Jupiter. Je pense que je laisse encore quelques secondes pour le voir encore une fois. C'est magnifique, non? Examinons maintenant cette trajectoire un peu plus en détail. Et dans les prochaines slides, je vais vous présenter les étapes clés de la mission. Les cibles de Lucy sont en gris ici. Nous commencerons par le lancement en 2021, qui a placé Lucy sur une orbite d'un an très proche de la Terre. Et après presque exactement d'un an, Lucy était revenue vers la Terre pour une assistance gravitationnelle terrestre. Et cela l'a augmenté l'énergie de son orbite et placé Lucy sur une orbite plus excentrique avec une période de 2 ans. Cette orbite nous a menés au bord de l'intérieur de la ceinture principale des astéroïdes, où nous avons eu notre premier test de rencontre avec un astéroïde. Et je reviendrai sur cette rencontre plus tard dans cette présentation. Encore une fois, maintenant, Lucy est en route vers la Terre, où dans seulement un mois, nous aurons notre deuxième assistant gravitationnel terrestre. Et avec cet assistant gravitationnel terrestre, ça nous donnera encore plus de l'énergie pour atteindre les Troyens de L4. En direction des Troyens, nous traversons de nouveau le ceinture d'astéroïdes principale et rencontrons notre deuxième astéroïde test appelé Donald Johanson. Cette rencontre aura lieu au printemps prochain. La trajectoire nous mènera ensuite vers les Troyens de L4, où nous aurons 4 rencontres rapprochées. Nous verrons d'abord l'Uribad. J'ai déjà mentionné cet objet parce que c'est le plus grand de la famille collisionnelle d'Uribad. Et qui possède aussi un petit satellite qui s'appelle Keta. Ensuite, nous verrons un Troyen de type P appelé Polymel, qui est aussi un satellite pour l'instant surnommé Sean. Puis, nous rencontrons un Troyen de type D appelé Lucus. Lucus est spécial, il a une rotation très lente. Il met plus de 18 jours pour effectuer un tour complet. Et ensuite, nous verrons un autre type D appelé Horus. Nous quitterons la groupe des Troyens de L4 pour revenir vers la Terre pour une troisième assistance gravitationnelle terrestre qui aidera à cibler la prochaine rencontre avec les Troyens du L5. Cet assistant gravitationnel modifiait légèrement notre argument du périhèle qui nous permet d'atteindre les Troyens du L5. Et là-bas, nous rencontrons un système binaire très spécial composé de 2 composants de 100 km de diamètre chacun. La mission prendra officiellement fin à la fin de 2033, après avoir observé au moins 8 Troyens et 3 astéroïdes. Maintenant, je vais donner un peu plus d'informations sur certaines des cibles, et commençons par Uribad. J'ai déjà mentionné plusieurs fois aujourd'hui qu'il qu'il est un membre d'une famille collisionnelle et l'Uribade, avec un diamètre environ 65 km, est le membre le plus grand. À droite, ici, vous voyez la distribution des tailles de l'Uribade en bleu. Et cette distribution est absolument typique d'une distribution d'une collision catastrophique. Lorsque nous comparaisons cela d'une simulation d'un impact en noir ici, on voit que ces deux distributions sont presque identiques. Les paramètres de cette simulation sont intéressants parce qu'ils nous disent que le Troyen original a une taille de 100 km et était impacté par un objet avec 35 km. De plus, des modèles permettront d'estimer quand cette collision s'était produite. Et je sais bien que l'incertitude sont grandes, mais cette collision s'est produite entre 1 et 3,5 milliards d'années. Autant que nous sachions, cela fait l'Uribade la cible la plus jeune de notre mission. Puis en 2020, Keith Knoll et Mike Brown ont découvert un satellite en orbite autour de l'Uribade dans les données de Hubble ici. Et cette lune a été nommée Queta en honneur de Henri Queta Basilio. Elle était devenue en 1968 la première femme à allumer la flamme olympique. Mais Queta revenu à Queta la Lune mesure environ 1 km en diamètre et est située environ 2300 km de l'Uribade. Elle est probablement formée en même collision qui a également donné naissance de la famille collisionnelle d'Uribade. Ensuite, quelques mots sur Polymel. Une méthode pour étudier la forme des astéroïdes consiste à observer des occultations. Et c'est lorsqu'un astéroïde passe devant une étoile et bloque pour un moment la lumière de celle-ci. Et en connaissance de la vitesse de l'orbite de l'astéroïde et en mesurant le temps pendant lequel l'étoile est occultée, on peut calculer la taille de l'astéroïde. Et cette mesure, en général, est effectuée par plusieurs télescopes et chacun produit une ligne dans cette graphique ici. Et donc, ici, c'est une graphique que je vous montre les résultats d'une campagne de l'occultation de 2022. Et premièrement, on voit que Polymel, ici, n'est pas du tout sphérique, mais ressemble plutôt, je ne sais pas, à une pomme de terre, peut-être. Et la deuxième chose à remarquer est également un second objet ici, qui en effet est en lune environ 5 km en orbite autour de Polymel. Et pour l'instant, nous ne connaissons pas l'orbite exacte de cette lune. Et ça, c'est nécessaire pour lui donner un nom officiel. Mais pour le moment, officieusement, nous l'appelons Sean. J'ai déjà mentionné la longue période de rotation de Lucus qui prend plus de 445 heures pour effectuer une rotation complète. C'est évidemment très lente et nous ne comprenons pas encore entièrement la raison de cette rotation lente. Aussi, en raison de la haute vitesse du survol de Lucie, ça signifie que nous ne verrons qu'un peu plus de la moitié de la surface de Lucas. Mais ce sera vraiment un objet très intéressant à observer, parce que les occultations ont révélé une forme très irrégulière. Et vous voyez par exemple ici, pour certains profils, nous avons un profil très angulaire. Les derniers Troyens que nous verrons sont Patroclus et Menoetius dans le groupe de L5. Et ce système binaire est vraiment spécial parce que les deux composants sont très grandes. Chacun a un diamètre d'environ 110 km. Et vous pouvez même les voir en orbite l'un autour de l'autre ici dans ces observations du télescope de Hubble et dans cette animation ici. Ce que c'est spécial de son binaire, ce système binaire, est que nous pensons que des tels binaires ne se forment que très tôt dans le système solaire. Cela signifie donc que ces binaires ont été préservés depuis sa formation initiale. Mais cependant, il est peu probable que les surfaces de ces objets sont restées complètement intactes. En 2022, Pignal Alonso a rapporté la présence possible d'un énorme cratère au sud du Menoetius. Mais pour l'instant, nous devrons donc attendre jusqu'à 2023 pour voir ce qui se passe. Ici, je vous présente un résumé de tous les objets que nous visiterons. Les images sont une impression artistique, mais les tailles relatives sont réelles. Lucie observera tous les types spectraux présents parmi les Troyens de Jupiter. Elle visitera à la fois les groupes L4 et L5. Observant un fragment collisionnel avec l'Uribade et une possible binaire primordial. Et nous avons des cibles avec des formes diverses en taille en taille et en forme. Pour être un peu plus précis, vous voyez ici la distribution de tailles connues de Troyens, et j'ai fait aussi les cibles de Lucie ici. Comme vous voyez que nous couvrons presque toute la gamme ici, et la même chose est vraie pour les couleurs, les bandes spectrales. Nous avons des cibles avec des moins rouges ou presque gris couleurs avec l'Uribade et des objets qui sont vraiment rouges. Les instruments de Lucie ont été conçus pour couvrir quatre domaines principaux. La première, c'est la géologie de la surface, y compris les cratères assez petits que 30 mètres. Et cela nous permet d'estimer l'âge de ces surfaces, mais aussi de indirectement détecter des corps si petits que 3 mètres. La deuxième, c'est la couleur et la composition de la surface et peut-être de la détection des glaces sur la surface de ces trojans. La troisième, c'est les intérieurs. On mesure les masses, les volumes et les densités. Et l'objectif final, c'est la détection des satellites supplémentaires ou des anneaux. Et tout cela est rendu possible grâce à 5 instruments. Nous avons LORI, c'est un caméra haute résolution dans le domaine visible, ici. C'est une caméra qui a également été utilisée dans la sonde de New Horizons. Nous avons Titicam, c'est équipé avec 2 caméras grand angle et ça permet aussi au vaisseau spatial de naviguer d'une manière autonome à proximité de Troya. Puis nous avons LTES, c'est une spectrographe d'émission thermique opérant dans l'infrarouge pour mesurer les températures et les propriétés thermiques du matériau. Puis nous avons LRALF, c'est une imageur visible infrarouge proche qui produit des cartes détaillées de la composition du surface. Et tous ces instruments ici sont montés au sommet de la sonde ici, et c'est monté dans une manière que nous pouvons orienter tous les instruments à la même fois pour avoir des observations de la surface de ces trojans. Et enfin, nous avons l'antenne de gain élevé et c'est pour la communication avec la Terre, mais aussi pour mesurer la masse de notre objet. Et juste pour, peut-être il y a des fans de Star Wars ici, je ne sais pas, mais cela pourrait vous aider peut-être pour comprendre la taille de Lucie. Chaque panneau solaire ici fait plus de 7 mètres en diamètre et soit presque la même taille que cette chasseur de Star Wars. Après vous avoir montré des nombreuses illustrations, laissez-moi de vous montrer des images réelles du vaisseau spatial. Ici, vous voyez Lucie en production chez Lockheed Martin à Denver, dans le Colorado, aux États-Unis. Et ici, un des panneaux solaires est complètement déployé pour un test, et vous voyez aussi ici quelques instruments de Lucie. Ici, vous voyez Lucie en Floride, en cours de préparation pour le lancement. Les 2 panneaux solaires sont repliés et cette photo a été prise juste avant que le vaisseau spatial soit placé dans la coiffe. Ici, 2 photos du lancement, l'une prise juste à côté de la rampe de lancement, quelques secondes après le décollage. À droite, vous voyez une exposition longue qui montre une grande partie de la trajectoire initiale. Et comme nous avons lancé dans la nuit, c'était particulièrement spectaculaire à vue. Maintenant, permettez-moi de vous montrer quelques données. Peu avant notre première assistance gravitationnelle terrestre, nous avons observé une éclipse lunaire en 2021. Ici, vous voyez une séquence, un moment, où est la Lune, là, une séquence où on voyait la Lune entrant dans l'ombre de la Terre. Et Pour moi, connaissance, c'est la première fois qu'on observe une éclipse lunaire avec à la fois la Terre et la Lune dans la même image. Quelques mois plus tard, lors de notre premier assistant gravitationnel terrestre, nous avons pris des images haute résolution de la Lune. Celles-ci ont servi à tester la caméra haute résolution et évaluer la taille le plus petit, la taille des plus petits cratères que nous avons, que nous pouvons voir. Pour moi, ce sont également simplement des très belles images. Et maintenant, avant de conclure, je voudrais parler un peu de notre première rencontre avec un astéroïde qui est au lieu il y a presque exactement un an. Je suis particulièrement fier de celle-ci car c'est moi qui ai remarqué que nous allions passer près de cet astéroïde. Et avant le survol, nous ne savons presque rien de cet astéroïde. Nous savons que c'est un astéroïde de la ceinture principale des astéroïdes. C'est une petite core, diamètre environ un demi-kilomètre, un kilomètre, et un astéroïde du type S. Ça, c'est vraiment typique du ceinture principale là où c'est où Dinganesh est. Et cette type S, c'est nous indique que la composition est silicatée. Lorsque nous avons reçu les premières images, nous avons été complètement surpris par deux choses que que nous avons vues. La première chose, c'était que ce n'était pas un astéroïde unique, mais un système binaire. Et en plus, son satellite était en fait un binaire de contact. Et ça, c'était quelque chose que c'était jamais vu auparavant. Dinganesh est un système très intéressant. L'astéroïde principal mesure environ 720 mètres de diamètre et présente vraiment une géologie diverse. Nous avons des cratères, du silon et en bosse, en équateur. Selam, la lune de Dinganesh, a deux composants, chacun mesure environ 200 mètres de diamètre. Et la séparation entre Dinganesh et Selam est environ 3 km, ce qui donne une période orbitale environ de 52 heures. Le fait de découvrir ce type de système complexe me dit que ça signifiait qu'ils sont courants dans la ceinture principale d'astéroïdes. Sinon, je pense que nous aurons été très chanceux. C'est également notre première rencontre près avec un astéroïde petit dans la ceinture d'astéroïdes principale. Jusqu'à alors, nous avons visité que des petits astéroïdes que s'approchent de la Terre, des astéroïdes Near-Earth Asteroids. Donc maintenant, nous avons l'opportunité de comprendre quelles sont les différences entre les deux populations, celles des astéroïdes proches de la Terre et celles de la ceinture principale. Il faut aussi garder à l'esprit que Dinganesh et aussi Selam peuvent être impactés par des autres astéroïdes de la ceinture principale des astéroïdes. Et si l'énergie de l'impact est suffisante, Dinganesh ou Selam peuvent être détruits. Et leur destruction dépend de l'énergie de l'impact, mais aussi de la résistance du matériau. Plus le matériau est résistant, plus le système peut survivre longtemps. Et donc en droite, je vous montre la probabilité de survie en fonction de deux hypothèses sur les propriétés de matériaux. Le matériau utilisé pour les lignes violettes est très résistant et qui signifie que le système peut survivre des centaines de millions d'années. Mais si nous utilisons un matériau plus réaliste pour les astéroïdes du type S, la demi-vie est seulement 15 millions d'années, et ce qui est très, très court à l'échelle astronomique. Cela signifie que le système d'Ikanesh est relativement jeune. Cela implique également que ces petits systèmes binaires sont fréquents dans la ceinture principale d'astéroïdes ou que la formation de tels systèmes binaires de petits astéroïdes est très efficace. La manière dont ces systèmes se forment reste une question ouverte. Une possibilité est que l'astéroïde tourne plus en plus vite jusqu'à un moment d'atteindre la limite de rupture du matériau. À ce moment-là, le matériau se fragilise et l'astéroïde perd du masse. Une quasi-disque se forme, mais ce disque est gravitationnel instable. Immédiatement, des petits amas commencent à se former et ils peuvent éventuellement se heurter pour former une lune. Et ceci est un exemple tiré d'une simulation d'un collègue, Harrison Agruza, je pense qu'il est là aujourd'hui. Et dans ce cas, la lune se forme très près de l'astéroïde principal. Mais au fil du temps, les marées et d'autres processus peuvent le faire migrer loin du corps principal. Et en ce cas-là, le système ressemble beaucoup à ceux de Dinganesh. Enfin, c'est que le début pour Lucie et aussi l'exploration des Troyens. Et si jamais vous souhaitez savoir où se trouve Lucie en ce moment exact dans le système solaire, vous pouvez visiter whereislucie.space. Là, vous voir un graphique interactif de la trajectoire et des étapes de la mission. Donc, j'espère que vous montrer que les Troyens sont une population unique en résonance 1 à 1 avec Jupiter. Il s'agit d'une population diversifiée avec une distribution bimodale de couleurs. Les couleurs ressemblent à celles du disque dispersé, mais ils sont déplacés vers le bleu. La distribution des tailles des Troyens est également similaire à celle de le disque dispersé. Ce sont deux indications que les Troyens pourraient être liés génétiquement de la ceinture de Kuiper. Et vous avez plus d'informations dans les leçons 4 et 8. Je vous ai ensuite présenté la mission Lucie, qui visite 8 Troyens entre 2027 et 2033. Les cibles couvriront toute la diversité de Troyens. Et enfin, je vous ai montré les premiers résultats de la rencontre avec l'astéroïde Dinganesh et le fait que nous avons découvert un système binaire avec une lune de binaire contact suggère que ces petits systèmes binaires sont courants ou que la formation de ces systèmes est vraiment efficace pour ces petits corps dans la ceinture principale d'astéroïdes. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.